Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 6. Le chevalier de Vaudrey avait précédé le lieutenant de police dans le cabinet où le magistrat lui avait dit de se rendre. Après les émotions si diverses qu'il avait éprouvées depuis le matin, alors qu'en se rendant à l'hôtel de Lignières, il redoutait tout des emportements et de la rancune du parent qui l'avait indisposé contre lui, le jeune homme avait ressenti une immense joie en se retrouvant en présence d'Henriette dans les conditions que l'on sait. Non, ce n'était pas une illusion. Il avait bien compris ce qu'avait voulu dire le comte. Il avait parfaitement saisi le sens exact de la pensée de M. de Lignières lorsque celui-ci lui avait parlé des conditions qu'il mettrait à ce que la jeune fille ne s'expatriât pas. Il savait dès ce moment que celle qui avait tant souffert par lui ne subirait pas un odieux châtiment pour avoir ouvert son cœur à l'amour tout en chassant de folles espérances. Tout d'abord, il s'était abandonné à une joie immodérée et laissé son âme se saturer de ce bonheur inespéré. Mais depuis, les paroles du comte lui étaient revenues, sinon comme une menace nouvelle, du moins comme une restriction à une première idée généreuse, à une capitulation inattendue des sentiments d'orgueil du gentilhomme, jusque-là demeuré inébranlable dans ses traditions de famille. Et maintenant qu'il allait se retrouver en présence de son oncle, il se prenait à redouter que les conditions qu'on voulait lui imposer ne fussent absolument inacceptables pour son cœur. N'allait-on pas le mettre dans l'impossibilité de refuser, de se soumettre à des exigences cruelles? Et cette fois, que pourrait-il pour retrouver celle dont on le séparerait brusquement? Roger en était là des sinistres réflexions dont son esprit était assailli, lorsque le lieutenant de police ouvrit la porte de son cabinet de travail. Le comte ne s'était pas inquiété de se composer une attitude. Il avait encore le visage pâle, bouleversé, comme à la fin de la scène qui venait d'avoir lieu chez la comtesse. Lorsque, ne pouvant plus se contraindre, il avait été sur le point de laisser éclater son émotion. En le voyant paraître, Roger avait fait un pas au-devant de lui, mais aussitôt le comte prit la parole. « Chevalier, dit-il, les résolutions que j'ai prises ont dû vous surprendre. Vous aurez, je suppose, la franchise d'avouer qu'en venant aujourd'hui chez moi, vous vous attendiez à une toute autre réception que celle qui vous a été faite. » Le chevalier voulut répondre. « Ne m'interrompez pas, poursuivit M. de Lignières. Si j'ai tenu à avoir avec vous cet entretien, c'est pour vous dire sincèrement, nettement, ce que j'ai décidé. Et je n'admettrai pas, croyez-le bien, d'opposition de votre part. Ce n'est pas une discussion que j'ai voulu, en vous recevant ici, mais bien l'assurance que vous vous soumettrez à ma volonté. » Roger voyait se réaliser les appréhensions qui lui tenaillaient le cœur lorsqu'il avait quitté Henriette chez la comtesse. Certes, ainsi qu'il venait d'être dit, sa stupéfaction avait été grande en apprenant de la bouche même de son oncle que celui-ci consentait à une union considérée jusque-là comme absolument impossible. Mais tout ce qui avait précédé cette déclaration ne lui donnait guère l'espérance que l'accomplissement de ses vœux dût marcher désormais sans difficulté. Il s'attendait donc presque à la scène qui s'annonçait comme devant être grave. Aussi, pour obéir au comte, garda-t-il le silence pendant que M. de Lignières reprenait toujours sur le même ton froid qui lui était habituel. Vous devez trouver surprenant qu'après la volonté expresse que je vous avais signifiée, j'en sois arrivé aujourd'hui à consentir. À mon mariage? À une union qui me fait votre complice lorsque vous résistez au désir de Sa Majesté. Roger courba le front. Oui, chevalier, fit M. de Lignières, dont la voix, malgré lui, avait des intonations grondantes. Oui, vous étiez, il faut le reconnaître, l'objet de sympathie royale que toute la noblesse de France vous eût enviée. Le roi, vous avez choisi une épouse, et Sa Majesté daigne encore à présent feindre d'ignorer le refus formel par lequel vous avez répondu à son royal désir. Le chevalier demeura impassible. « Soit, fit le comte en relevant la tête, je fais passer avant tout, avant même mon obéissance au roi, le bonheur que j'eusse éprouvé de vous voir vous montrer digne des faveurs inespérées qui tombait sur notre maison. Je fais passer, dis-je, le repos de l'esprit, le calme de l'âme de celle qui est devenue ma compagne et que j'aime, entendez-vous, Roger, de l'affection la plus pure et la plus sainte. » En entendant ces paroles, empreintes d'une si grande sincérité, le chevalier de Vaudrey ne put s'empêcher de prendre à son tour la parole. c'est qu'au-dessus de l'insigne honneur que Sa Majesté daignait faire à notre famille, vous avez généreusement placé le repos, le bonheur, la vie de la comtesse. Oui, vous avez fait taire vos justes ressentiments. Vous avez atteint à une hauteur d'abnégation qui commande le respect. Parce que dans votre conscience, vous avez reconnu que la malheureuse que vous pouviez foudroyer de votre colère était une victime. Et vous n'avez pas voulu que cet ange s'en retournât vers Dieu, l'âme troublée. Vous avez pardonné, et cette admirable action dont j'étais le témoin, dont seul, parmi ceux qui assistaient à cette scène, je pouvais comprendre tout le côté sublime, me fait incliner humblement le front devant celui qui sait à ce point commander à son âme révoltée et y trouver cette majestueuse abnégation. Le chevalier, ému, la poitrine haletante, avait déjà fléchi le genou. Le comte lui saisit les mains et le relevant. « C'est dans mes bras, Roger, c'est sur mon cœur que je veux te presser. » Et pendant quelques minutes, ces deux hommes, naguère encore irrités l'un contre l'autre, se tinrent embrassés, silencieusement, en proie à une de ces émotions où la joie et la douleur se confondent, émotions douces et douloureuses à la fois, comme en éprouvent les affligés, pour lesquels la Providence a limité le temps des épreuves et des souffrances. Puis M. de Lignières s'arracha de cette étreinte, et essuyant les larmes qui lui venaient aux yeux, « Allons, mon ami, dit-il, j'ai désormais la certitude que vous ne ferez pas d'objection à ce que je vais réclamer de vous. » Le chevalier de Vaudreuil, les yeux humides, fit un signe d'assentiment. « Bien, Roger, prononça le comte d'un ton paternel, qu'il ne soit plus question entre nous de conditions. Ce mot sonne mal à nos oreilles. C'est comme un père que je m'adresse à vous. C'est comme un fils que je vous prie de me répondre. » Et indiquant de la main un fauteuil, « Venez vous asseoir là, près de moi, » continua-t-il, tandis que lui-même allait prendre place devant son bureau. L'émotion avait rapidement gagné le chevalier de Vaudreuil. Il s'était arraché à l'étreinte de M. de Lignières comme un regret, et obéissant au désir que celui-ci venait de formuler, il alla prendre la place qu'on lui désignait. Il sentait qu'on allait encore lui imposer quelques sacrifices douloureux, et à présent que la réconciliation avait eu lieu entre lui et son parent, il se disait qu'il n'aurait plus le courage de refuser ce qu'on pourrait exiger de lui. Aussi, voyant que son oncle semblait hésiter à entamer la conversation, ce fut lui qui commença en ces termes. « Vous me voyez à vos ordres, monsieur, et je vous prie de mettre promptement un terme à l'émotion qui m'envahit de plus en plus, depuis que je sais que vous mettez une condition formelle à mon bonheur. Eh bien oui, Roger, je ne veux pas que celui qui fait partie de ma famille puisse tomber sous le coup de blâme scandaleux et provoquer un éclat dont tous, dans la famille, nous ressentirions les effets. Que voulez-vous dire, monsieur le comte ? Je veux dire, chevalier, que lorsqu'un gentilhomme rompt brusquement avec toutes les traditions de sa race, il doit pouvoir braver l'opinion publique. J'entends par là, Roger, que celui qui accomplit ce que dans notre société on appelle une mésalliance puisse commander le respect par lui-même et faire respecter celle qu'il a jugée digne de porter son nom. Mais qui donc oserait ? Tous ceux qui savent les sympathies du roi pour vous, et qui n'ignorent pas que Sa Majesté vous réservait une alliance illustre. Tous ceux qui ne tarderont pas à apprendre que le chevalier de Vaudreuil a fait abnégation de son nom, de sa haute naissance, de son rang pour épouser une personne sans naissance. Et que m'importe ? Je saurais faire taire les... Il m'importe à moi que le chevalier de Vaudreuil, mon neveu, n'ait pas à demander à son épée de duelliste de le faire respecter. Je consens, je l'ai dit, à ce que vous soyez unis par les liens du mariage, à celle que vous avez choisie pour fiancée. Je veux bien, en cela, faire taire toutes les objections qui m'assaillent l'esprit et faire plier mon juste orgueil devant votre bonheur. Mais j'exige, pour tant de sacrifices, que vous puissiez passer la tête haute devant tous, que vous ayez ajouté à votre nom une réputation telle de vaillance et fait briller votre épée d'un si grand éclat que vous ayez acquis par là le droit de passer outre à toutes les convenances sociales. Vous me comprenez, Roger, je désire que vous deveniez une personnalité mise en évidence non par l'éclat de votre naissance, mais par votre propre valeur. Lorsque vous aurez atteint ce but, mais seulement alors, je trouverai que vous avez acquis le droit de vous unir au gré de votre cœur sans vous soucier de l'opinion. » Le chevalier avait écouté cette sortie sans interrompre, lorsque M. de Lignières se fut arrêté de parler. « Que prétendez-vous que je fasse ? » demanda-t-il. « Car je suppose, monsieur le comte, que pour me dire toutes les choses si justes que je viens d'entendre, vous avez dû également trouver pour moi la voie à suivre, la voie au bout de laquelle je dois obtenir le droit de devenir l'époux d'Henriette. Puis changeant brusquement de sujet. « Ah, vous l'avez vu, monsieur le comte, vous avez pu juger de son cœur. Vous avez regretté le mouvement de colère qui vous a rendu injuste envers une innocente créature. Vous l'avez entendu vous supplier de pardonner, ajoutant qu'elle était prête à quitter la France si vous l'exigiez. Vous avez compris ce qu'il y avait de sincérité dans ce cœur ouvert à tous les bons sentiments et qui se condamnait aux plus terribles souffrances de l'âme. Vous savez, monsieur le comte, combien elle est digne de respect que l'on doit à la vertu. Dites-moi donc, je vous en supplie, ce qu'il faut que je fasse pour abréger, autant que possible, cette dernière épreuve à laquelle je ne puis ni ne veux me dérober. En vous obéissant pour arriver à la réalisation de mon vœu le plus ardent, je prétends donner à celle que j'aime la preuve que je suis prêt à tout entreprendre pour elle. « Soit, répondit le comte, puisque vous me demandez un conseil, voilà ce que j'ai pensé. Vous savez que le général marquis de Lafayette est sur le point de quitter la France pour aller aider les Américains à conquérir leur indépendance. Quoi, vous songeriez à ce que vous obteniez un grade dans la petite armée que Lafayette emmène au-delà de l'Atlantique, guerroyée de concert avec les troupes de Washington. Tout gentilhomme n'est-il pas de droit militaire? Partez donc, je me fais fort que vous serez agréé par le marquis qui s'y connaît en courage et saura bientôt apprécier votre vaillance sur les champs de bataille du Nouveau Monde. » Le chevalier de Vaudreuil ne répondant pas, le comte poursuivit. « J'ose espérer que vous n'hésitez pas, Roger, à vous conformer aux conseils que je vous donne. Non, vous ne sauriez hésiter, car vous avez trop bien compris combien sont justes les arguments que j'ai voulu faire valoir tout à l'heure. Vous avez raison, monsieur le comte, de ne pas douter de moi en cette circonstance. Ce n'est pas le danger qui pourrait jamais m'effrayer, vous ne l'ignorez pas. Aussi vous supplierai-je de voir au plus tôt le général Lafayette, afin d'obtenir de lui qu'il me donne un régiment à commander. Et je partirai à la conquête de cette réputation que vous jugez indispensable. Mais du moins, permettez-moi avant de me séparer d'elle, pour longtemps, peut-être pour toujours, permettez-moi, dis-je, d'aller faire mes adieux à celle que j'aime, et lui dire que cette séparation que je m'impose est la preuve la plus éclatante que je puisse lui donner de mon amour. » Monsieur de Lignières avait obtenu sans combat, sans discussion même, ce qu'il avait souhaité. Il ne pouvait refuser de consentir à ce que le chevalier demandait comme une grâce. « Vous reverrez votre fiancée, chevalier, et je vous promets que pendant votre absence, elle sera l'objet de toute la sollicitude dont vous l'avez jugée digne. J'ai consenti à ce que son amie, Louise, j'ai permis que cette infortunée demeura auprès de la comtesse. « Vous avez consenti ?»« Oui, Roger, j'ai permis que celle qui n'avait plus de mère en trouva une dans la personne de Diane. Et ce sera une satisfaction pour mon cœur si, en agissant ainsi, je puis contribuer à ce que la comtesse recouvre enfin la santé. » Monsieur de Lignières avait prononcé ces derniers mots avec une émotion contenue à grand-peine. Henriette continuera à demeurer chez le docteur Hébert, sans doute, dit Roger. C'est là que je vais me rendre, puisque vous le permettez. Oui, j'ai obtenu du docteur qu'il continue à sa protection à l'une des deux orphelines pendant que je me chargerai de l'autre. Que de remerciements ne vous devra-t-elle pas ? Murmura Roger au comble de l'émotion. Je me souviendrai toute ma vie, monsieur le comte, pour vous en conserver une éternelle reconnaissance, que vous me rendez à moi-même, que vous m'épargnez ainsi la douleur de vous désobéir, et qu'en même temps vous me permettez de me livrer à un bonheur sans mélange, à une joie qui ne sera plus troublée par des remords. Monsieur de Lignières avait écouté, l'âme rassérénée par la grandeur même du sacrifice qu'il lui imposait. Et lorsque le chevalier eut achevé cette phrase émue, il lui serra la main et l'entraîna doucement vers la porte, comme pour lui faire comprendre que l'entretien devait s'arrêter là. Roger s'inclina. Puis au moment de sortir, « Je ne sais s'il convient que je retourne auprès de la comtesse, en ce moment où elle doit être toute à sa surprise. » « Dites à sa joie, Roger. Oui, je comprends et j'apprécie le sentiment qui vous fait hésiter à devenir le témoin de ces premières effusions de Diane et de la protégée, qu'elle va, de par ma volonté, pouvoir considérer comme notre enfant d'adoption. Aussi, je vous rends votre liberté d'action. » Et après un court silence, « N'avez-vous pas tout à l'heure manifesté le désir de revoir… »« Henriette ?»« Oui. » »« Eh bien, rendez-vous chez le docteur Hébert. » Roger haletait de bonheur. Profitant de la permission que lui accordait le comte, il quitta le cabinet. Lorsque M. de Lignières retourna auprès de la comtesse, il trouva Diane assise et ayant à ses pieds l'aveugle, qui s'était agenouillé sur un tabouret dans la posture de l'enfant qui écoute les recommandations d'une mère. En apercevant son mari, la comtesse avait fait un mouvement pour se lever et se porter au-devant de M. de Lignières. Mais celui-ci s'empressa de lui éviter cette fatigue. Et s'approchant des deux créatures auxquelles il venait de rendre le bonheur, en s'élevant lui-même au plus haut degré de la grandeur d'âme, il voulut compléter généreusement son œuvre. Après les émotions violentes qu'il avait éprouvées, après cette lutte cruelle d'où il était sorti vainqueur, le mari de Diane retrouvait pour celle qui, à ses yeux, n'était plus qu'une victime digne de compassion, des tendresses paternelles. Il s'inspirait maintenant des élans de son cœur pour se persuader qu'il devait entourer de soins affectueux et de la plus grande sollicitude celle dont il pouvait apprécier aujourd'hui l'immensité des souffrances dissimulées pendant tant d'années. « Diane, prononça-t-il de sa voix la plus douce, demeurez ainsi que vous étiez lorsque j'ai ouvert cette porte. C'était, je vous l'assure, un charmant tableau que j'admirais. Et où il manquait un personnage, monsieur le comte. » M. de Lignières eut un léger mouvement des lèvres qui affectait les bouches d'un sourire. « Oui, reprit Diane, il manquait à ce tableau du bonheur retrouvé celui à qui Dieu a envoyé cette sublime inspiration de charité. Il y manquait l'époux que je respecte autant, autant que je l'aime. » En prononçant ces mots, la comtesse avait appuyé une main sur son cœur, tandis qu'elle levait l'autre comme pour prendre l'Éternel à témoin de sa sincérité. « Il y manquait, continua-t-elle en baissant la voix, celui que cette pauvre enfant, cette chère infortunée, ne cessera de bénir dans chacune de ses prières, et à qui j'apprendrai qu'il existe en ce monde des âmes élevées qui se sont placées si haut dans l'humanité qu'elles ont droit au respect, aux bénédictions et à la vénération que l'on doit aux saints. » Étendant la main à son mari, « Venez, monsieur le comte, et daignez occuper la place qui vous est réservée dans ce tableau composé par vous-même et que Dieu vous a inspiré. » Monsieur de Lignières prit place entre Diane et Louise, appuyé au dossier du fauteuil. L'aveugle devina le changement qui s'était opéré dans cette mise en scène, car instinctivement, elle dirigea ses beaux yeux éteints vers monsieur de Lignières en murmurant. « Oh, que je voudrais vous voir, monsieur le comte! Que je voudrais qu'il me fût permis de contempler respectueusement les traits du bienfaiteur à qui je dois tant de reconnaissance. Hélas, ajouta-t-elle avec un soupir, Dieu m'a privée de ce bonheur. Et je vous le jure, monsieur le comte, depuis que je m'étais résignée à mon triste sort d'aveugle, c'est la première fois que je souffre si cruellement d'être privée de la vue, puisque je ne puis regarder mon bienfaiteur. Pauvre enfant, murmura la comtesse en imposant sa main amaigrie sur la tête de Louise. Et ses regards voilés de larmes se levèrent vers le visage de M. de Lignières pour y lire l'émotion qui s'y reflétait. Le comte, en effet, ne pouvait plus se contraindre à l'impassibilité qu'il avait voulu conserver pendant cette scène émotionnante. En entendant cette pauvre créature déclarer que jamais elle n'avait été si profondément affligée d'être privée de la vue, le mari de Diane s'était senti remué jusqu'au fond de l'âme. Et unissant sa main à celle que la comtesse avait placée sur le front de l'aveugle, comme pour y appeler la bénédiction divine, il sembla vouloir consacrer par là une nouvelle union doublement sacrée, celle-là, puisqu'elle s'accomplissait en présence de cet enfant qui aurait pu devenir la cause d'une rupture éclatante et éternelle. Madame de Lignières, éprouvant à son tour la plus vive émotion, courba la tête jusqu'à ce que ses lèvres pussent effleurer les mains du comte. Alors, entre ces deux êtres qui n'avaient plus de secret l'un pour l'autre, il se fit un accord tacite, un engagement solennel et la consécration, par un regard échangé, de tout un avenir d'affection réciproque, un compromis d'amour et de bonheur sans nuage. Et pendant ce temps, l'aveugle continuait à murmurer des paroles de respect, d'affection et de reconnaissance. Mais dans cette vie nouvelle qui allait commencer pour elle, il y avait un regret, comme une ombre à ce tableau charmant de son existence s'écoulant sous le regard attentif d'une mère. Elle se souvenait, la chère créature, qu'en des jours de terrible épreuve, un autre avait eu pitié d'elle, l'avait secourue autant qu'il avait pu faire. Et que ce bienfaiteur était un pauvre déshérité comme elle, un pauvre malheureux, dont des parents sans entrailles avaient fait une victime dès sa plus tendre enfance. Elle se souvenait de ce rémouleur qui se tuait au travail pour en apporter tout le fruit à une mère odieuse, dénaturée et à un frère infâme. En ce moment même où elle éprouvait de si douces joies, il lui venait à la pensée que Pierre, son ami, Pierre qui l'avait défendu en exposant sa vie, Pierre était peut-être sans asile et sans pain, peut-être même poursuivi par la justice, accusé du meurtre de Jacques. Elle se rappelait les dernières paroles qu'il lui avait adressées et qu'elle avait répétées bien souvent depuis. Elle se demandait si dans sa joie d'avoir retrouvé Henriette, elle n'avait pas été ingrate envers l'ami des jours de souffrance. Puis, pour soulager sa conscience qui l'accusait, elle se promettait d'intéresser ses bienfaiteurs au sort de ce brave garçon, si digne de trouver la récompense d'une vie honnête, hors de ce taudis où il végétait à côté de l'odieuse mégère qui n'avait jamais su être une mère pour lui. Elle enferma donc au fond de son cœur le secret de son affection pour ce brave Pierre, afin d'attendre le moment propice pour faire ses confidences à la comtesse. Mais elle n'avait pu laisser écouler cette première journée de bonheur sans donner une pensée au pauvre rémouleur qu'elle n'espérait plus retrouver, mais dont le souvenir hantait son esprit et rendait son âme tout émue. Le chevalier de Vaudreuil n'avait pas perdu un instant pour profiter de l'autorisation que lui avait accordée le comte de se rendre auprès d'Henriette. En route, il réfléchissait à l'obligation qu'il venait de contracter, envers son parent, de quitter la France pour aller guerroyer dans le Nouveau Monde. Certes, les raisons qu'avait fait valoir M. de Lignières étaient justes. Elles avaient trouvé son cœur prêt à ce sacrifice qu'on réclamait de lui, puisque c'était la condition imposée à la réalisation de cette union si ardemment souhaitée. Cette séparation n'en était pas moins une dernière cruauté du sort qui l'atteignait après tant d'autres épreuves douloureuses et irritantes. Il avait retrouvé Henriette après de terribles luttes, après de cruelles angoisses, en surmontant des difficultés sans nombre, et il lui fallait subir une nouvelle séparation. C'est sous cette impression pénible que Roger se présenta chez le docteur. M. Hébert l'attendait. Il le fit immédiatement passer dans son cabinet, lui présenta un fauteuil à côté du sien, l'accueillant avec ce bon sourire qui éclairait son visage. Ce n'était plus l'homme rigide qui, précédemment, n'avait pas voulu qu'une entrevue entre les deux fiancés eût lieu chez lui avant que le mariage que se proposait le chevalier n'eût obtenu la sanction du chef de la famille. « Mon ami, dit-il au visiteur, je sais le motif qui vous amène chez moi. Aussi, ne vous ferai-je pas attendre plus longtemps la présence de celle que vous désirez voir et à qui vous allez, je n'en doute plus, transmettre la volonté de votre oncle. » Et comme Roger paraissait ému et gardait le silence, le docteur reprit. « Monsieur de Lignières n'a pu, je suppose, revenir sur les intentions manifestées en ma présence. Je dirais même sur le consentement qu'il vous a accordé. Alors, pourquoi cet air soucieux? Que s'est-il passé depuis que j'ai quitté l'hôtel de Lignières? Vous allez le savoir, mon cher docteur, car c'est en votre présence que je désire m'entretenir avec Henriette. Vous devez apprendre, en même temps, quelles sont les conditions que m'a dictées le comte et auxquelles j'ai souscrit. » Sans répondre, M. Hébert ouvrit la porte qui faisait communiquer son cabinet avec le petit salon où se tenait Henriette. « Venez, mon enfant, » dit-il simplement. La jeune fille obéit. Mais à la vue de Roger, elle s'arrêta sur le seuil, rougissante et émue. Le docteur la prit par la main pour la faire asseoir à côté de lui, tandis que le chevalier s'approchait respectueusement. « Nous vous attendions, mon ami, » commença M. Hébert, dont le regard eut une intention de malice à l'adresse de la jeune fille. « La visite que vous espériez devait être la conséquence de tous les succès que nous avons obtenus en ce jour qui devra marquer dans votre existence à tous deux, mes chers enfants. » « Qui marquera surtout dans la mienne, monsieur, » répliqua avec vivacité Henriette. « Ce dont je me souviendrai, tant je serai en ce monde, c'est qu'il s'est trouvé pour me sauver de la plus horrible situation un homme par lequel chaque jour voit s'accomplir un bienfait, soulager une misère, un homme devant lequel l'orpheline reconnaissante doit se prosterner. » À son tour, le chevalier intervint. « Et moi, docteur, que ne vous dois-je de remerciements? Sans vous, sans votre charité, sans votre ferme résolution de nous protéger l'un et l'autre, Henriette et moi, nous serions à jamais séparés, car je vous en fais ici le serment à tous deux, je n'aurais pu survivre à la perte de mes espérances. » « Et moi, s'exclama la jeune fille, j'aurais succombé à la douleur et à la honte. Dieu ne l'a pas voulu, mes enfants, et il vous a envoyé vers moi. Aussi vous dois-je, à vous, qui vous êtes tant intéressé à notre sort, le récit de ce qui s'est passé entre le comte et moi. » Et sans autre préambule, Roger mit le docteur et Henriette au courant des conditions imposées par M. de Lignières. Il avait parlé d'abondance sans être interrompu, ni par le docteur, dont les yeux étaient demeurés fixés sur lui, ni par Henriette, qui pendant tout le récit ne s'était pas départie du calme qu'elle s'imposait. Lorsque le chevalier eut achevé de parler, M. Hébert lui tendit la main en disant « Je n'en attendais pas moins de vous, mon ami. Je savais que votre affection n'était pas de celles qui subissent des défaillances. » Et se tournant vers la jeune fille, « Je suis également certain, mon enfant, que vous accepterez cette nouvelle séparation avec le courage et la résignation qui conviennent. » Henriette se leva et s'adressant au chevalier. « Lorsqu'il s'était agi pour moi de choisir entre le sacrifice que vous vouliez me faire de votre avenir ou la douleur, je puis l'avouer aujourd'hui, à laquelle je me condamnais éternellement en refusant votre nom, Roger, je n'ai pas hésité à déclarer que j'étais prête à quitter Paris, à m'expatrier même, si on l'exigeait. Aussi ai-je acquis le droit de vous dire combien je suis fière d'être l'objet d'un amour qui surmonte tous les obstacles et accepte toutes les épreuves. » Elle eut un regard de tendresse infinie pour le chevalier, et luttant contre l'émotion qui l'envahissait à l'idée de cette nouvelle séparation devenue indispensable, « Partez, Roger, » dit-elle en s'efforçant d'assurer sa voix. « Partez sans regret, comme sans crainte. Celle qui attendra votre retour n'oubliera pas que c'est pour elle que vous vous imposez le sacrifice de votre liberté. Que c'est pour elle que vous rompez avec l'existence heureuse du gentilhomme pour aller subir les fatigues du soldat. Je n'oublierai jamais qu'après tant d'épreuves subies, vous aurez encore bravé, pour assurer notre union, les dangers, la mort même. » Henriette avait parlé avec une animation extrême. Le docteur et Roger l'écoutaient émus. « Du reste, ajouta-t-elle, je vous dois un aveu, mon ami. Depuis que Monsieur le comte de Lignières a bien voulu me pardonner et me permettre de demeurer en sa présence, depuis que j'ai compris que j'étais l'objet d'une générosité à laquelle je ne devais pas m'attendre, une pensée s'est aussitôt imposée à moi. Je me suis dit que je devais m'interdire toute joie en ce monde tant que ma pauvre aveugle serait condamnée aux ténèbres, tant que la compagne de mon enfance, ma sœur, ma Louise bien-aimée, pourrait avoir besoin de mon bras pour la guider, de ma présence pour lui faire oublier qu'elle est orpheline. Et puisque le docteur, notre bienfaiteur à toutes deux, avait l'espoir de rendre la vue à ma chère aveugle, je me jurais que j'attendrais que Dieu permît que les yeux de Louise retrouvassent la lumière, afin qu'elle pût me voir prosternée avec vous devant l'autel où se bénirait notre union. » Mais en parlant ainsi, Henriette répondait à un sentiment plus humain, afin de rendre la séparation qui s'imposait moins cruelle pour le chevalier. Elle se montrait courageuse alors que son âme était pleine de tristesse. N'allait-elle pas désormais vivre dans de continuelles transes? Et la condition que mettait M. de Lignières à son mariage n'était-elle pas une épreuve nouvelle à laquelle on la condamnait? Et cette fois, il ne s'agissait ni de sa liberté ni de son honneur compromis. C'était Roger qu'on envoyait à des dangers sans nombre, d'autant plus redoutable que pour atteindre le but qu'il se proposait, le gentilhomme ne ménagerait ni son courage, ni sa vie. Comment n'aurait-elle pas tremblé à cette perspective? Ne se souvenait-elle pas de cette terrible nuit où le hasard l'avait, pour la première fois, mise en présence de M. de Vaudrey, au pavillon du Bel Air? Ne se rappelait-elle pas la bravoure déployée par le chevalier au moment où l'indignation lui dictait son devoir de gentilhomme? Ne le revoyait-elle pas par la pensée, tirant l'épée pour elle et exposant sa poitrine au fer d'un redoutable adversaire? Et il ne la connaissait pas alors. Elle n'était pour lui qu'une indifférente qu'il s'agissait de protéger, parce qu'elle implorait, parce qu'elle protestait contre l'odieux attentat dont on voulait la rendre victime. Que serait-ce à présent qu'il s'agirait pour lui de se faire une réputation assez éclatante pour qu'elle lui permît de braver le scandale d'une mésalliance? Quelle prouesse n'allait-il pas accomplir aujourd'hui qu'il combattait non pour défendre l'honneur d'une inconnue, mais pour l'amour de celle qu'il n'avait pas craint de disputer à la colère du lieutenant de police? Toutes ces pensées tourbillonnaient dans l'esprit d'Henriette, au moment même où, dissimulant ses appréhensions, commandant aux craintes qui l'envahissaient, elle se voyait obligée de faire un pieux mensonge. Mais si la pauvre enfant trouvait Roger crédule, elle n'avait pas réussi à tromper le docteur sur l'état réel de ses esprits. M. Hébert, en écoutant les paroles prononcées par la jeune fille, n'avait pas été dupe de cette apparente fermeté qu'elle s'était donnée à force de volonté. Il devinait, dans ce jeu de physionomie qui voulait être calme et rassuré, les violentes émotions qui agitaient Henriette. Aussi jugea-t-il à propos de laisser les deux fiancés causer sans témoin, échanger dans ce moment d'une séparation si pénible pour l'un et l'autre, les adieux qu'ils avaient à se faire. Il sentait, l'excellent homme, que ces deux êtres ne pouvaient se quitter ainsi sans donner l'essor aux pensées d'amour qui emplissaient leur âme, aux promesses d'affection éternelle, aux recommandations émues, aux attendrissements qui soulagent le cœur. Il se retira discrètement, comme un père affectueux, avec un bon sourire, à l'adresse de ceux pour qui cette journée était véritablement la journée des fiançailles. Quand Roger se retrouva seul en face de la jeune fille, son émotion, qu'il avait contenue jusque-là, se donna un libre cours. « Henriette, s'écria-t-il, croyez que je ne suis pas complice des nouvelles rigueurs de mon oncle. Si j'apprécie le sentiment qu'il édicte, je n'en souffre pas moins, et cruellement, je vous le jure. Ai-je besoin de vous le dire? Ne voyez-vous pas? Ne comprenez-vous pas déjà que je m'y résigne, parce que c'est le seul moyen de prouver au chef de ma famille qu'il n'est pas d'obstacle que je ne surmonterai pour arriver à cette union qui doit être le bonheur de ma vie. Mais si je m'efforce de dissiper les derniers scrupules qui s'y opposent encore, c'est que je sais, hélas, que fidèle à votre droiture, fidèle à la promesse que vous avez faite au comte, vous n'accepteriez pas de me voir passer outre aux conditions qu'on m'impose. Je le sais. N'ai-je pas eu la preuve que vous pouviez vous décider à étouffer votre amour, à consentir à voir s'évanouir vos rêves les plus chers, plutôt que d'être la cause d'une rupture éclatante entre mon oncle et moi ? Henriette courbait le front pour cacher son trouble. Les paroles que prononçait le chevalier avaient un écho dans ce cœur qui s'était ouvert à l'amour en pleine chasteté. Elle rougissait, la chère créature, qu'on eût deviné les sentiments qui l'animaient, qu'il avait soutenus dans ce long martyre subi pour l'être aimé. Roger éprouvait de son côté la première joie qu'il eût ressentie depuis bien longtemps. Il lui était permis maintenant de parler hautement de son affection, de ses projets, de ses espérances, puisque sa liaison avec Henriette cessait d'être une aventure, pour devenir des fiançailles auxquelles M. de Lignières et la comtesse donneraient leur agrément. Aussi le chevalier ne s'arrêta-t-il pas à l'air intimidé de sa fiancée. Il affirma qu'il avait toujours été prêt à tenir, en dépit de tout ce qui pouvait survenir, le serment qu'il s'était fait à lui-même de n'avoir pour épouse que celle dont il s'était fait le défenseur. « Henriette, poursuivit-il, du jour où je fus certain que l'affection que je ressentais pour vous avait touché votre cœur, dès l'instant où, dans la candeur de votre âme, vous me laissiez surprendre le secret d'une sympathie que la reconnaissance avait fait naître, je vous le jure, Henriette, j'étais décidée à ne plus m'inquiéter, ni des considérations de famille, ni de devoirs à observer envers la société où je tenais un rang, à ne plus me laisser détourner de mon amour, à vous consacrer toute ma vie. Que m'importait que mes amis d'autrefois se missent à crier au scandale, à la mésalliance? N'avais-je pas, pour défendre l'épouse de mon choix, pour faire respecter Madame de Vaudrey, l'épée qui avait défendu la chaste victime qu'on voulait perdre, et châtier le cynique gentilhomme qui avait attenté à l'honneur d'Henriette Gérard? Roger, murmura la jeune fille en tendant la main au chevalier, tout ce que vous me dites aujourd'hui avec émotion, avec feu, avec votre cœur et toute votre âme, ne le savais-je pas déjà? Ne l'avais-je pas compris? Ne l'avais-je pas lu dans le respect même dont vous m'entouriez? Ce que n'avait pu deviner, ni lire Henriette dans mes regards, c'était la flamme qui me dévorait, c'était l'exaltation qui envahissait mon esprit, c'était cette exaspération de l'amour devenant chaque jour plus grande. Ce que vous ignoriez, ô ma bien-aimée, c'est que si vous aviez subi la condamnation qu'on voulait vous infliger, je me serais expatriée pour aller partager votre sort. Je vous eusse aimé là-bas comme je vous aimais ici. J'aurais tout tenté, tout risqué pour parvenir à vous délivrer. Ce que vous ne pouviez savoir, Henriette, c'est que vous, morte, car vous auriez, hélas, succombé à tant d'infamies, à tant de persécutions, à tant de violences. Vous, morte, ô mon ami, le chevalier de Vaudrey eût mis fin à une existence qu'il voulait vous consacrer tout entière. Henriette leva sur son fiancé ses beaux yeux voilés de larmes, larmes de bonheur au travers desquelles souriait le regard, comme le rayon de soleil vient parfois tout d'un coup éclairer la pluie et faire scintiller les gouttes d'eau tombées du ciel. Ses aveux étaient doux à son cœur et la réconfortaient après toutes les épreuves subies. Elle pouvait les entendre, les écouter sans scrupule, sans danger pour son honnêteté, sans violence pour sa pudeur. Ces paroles passionnées qui faisaient une si profonde impression sur son âme étaient bien le poème d'amour qui commençait pour elle, dont les chants devaient se succéder mélodieux, inspirés, trouvant chaque jour un aliment nouveau dans les tristesses de la séparation, dans la perspective des joies du retour et des effusions à venir. Et ses lèvres frémissaient sous la réponse toute prête qu'elles emprisonnaient à regret. Elle se faisait violence pour ne pas dire ce qu'elle éprouvait de tendresse, ce qu'elle avait souffert pendant les heures d'angoisse, alors qu'elle se voyait en proie au sombre désespoir, à jamais séparée de l'être aimé. Elle retenait cet aveu prêt à s'échapper de ses lèvres. « Roger, dans cette nuit de mon existence, alors que tout était pour moi ténèbres et deuil, alors que j'attendais, innocente, le châtiment réservé aux misérables, aux infâmes, une lueur venait parfois éclairer mon âme. C'était votre pensée, ô mon ami, demeurée pure dans mon souvenir. » Les minutes s'envolaient trop rapides maintenant pour ces adieux. Les deux fiancés eussent voulu voir l'heure s'éterniser, pour tous ces recommencements de protestation, pour tous ces ressassements exquis des mêmes choses, ces échanges toujours attendus des mêmes pensées d'amour. Et cependant, l'instant allait arriver où il faudrait mettre un terme à cet entretien plein de charme, à ces émotions si douces, à ces adieux si profondément émus. Le docteur Hébert jugea qu'il avait le droit de dire aussi son mot dans cette conversation qu'il avait tolérée. Il prit soin de s'annoncer par une petite toux significative. Henriette et Roger n'eurent point à ce moment les attitudes d'amoureux effarouchés. Ils n'avaient rien à cacher de leurs sentiments réciproques. Ils demeurèrent la main dans la main, et leurs regards assurés, parce qu'ils étaient purs et honnêtes, se dirigèrent en même temps vers l'homme bienveillant qui avait voulu remplir envers eux le rôle de la Providence. La même pensée leur venait à ce moment, une pensée de reconnaissance, d'attachement filial pour celui qui n'avait rien épargné pour les rapprocher, mais qui avait voulu que ce rapprochement se produisît loyalement. Le docteur ne leur laissa pas le temps de le remercier. Comme s'il eût deviné leur intention, il dit avec son bon sourire : « Je vous ai laissé le temps de causer, je crois. Je ne doute pas que si je ne les interrompais, vous prolongeriez longtemps encore des adieux très touchants, mais qui doivent prendre fin, pour plusieurs motifs. » Henriette sentit la rougeur envahir ses joues. « Ce n'est pas un reproche que je vous adresse, mon enfant. Ce que je veux dire, c'est que M. de Vaudrey a sans doute bien des dispositions à prendre avant son départ. Au surplus, le comte de Lignières doit attendre son retour pour le mettre au courant des démarches qu'il n'a pas bien certainement négligé de faire auprès du marquis de Lafayette, » interrompit Roger. « Je sais, en effet, que mon oncle espère obtenir pour moi un commandement. » Il l'obtiendra, vous n'en pouvez douter. Oh oui qu'il l'obtiendra, fit une voix arrivant de la porte qui s'était entrebâillée sans bruit. Les trois personnages de cette scène s'étaient tournés en même temps vers le nouveau venu. Excusez-moi, monsieur le docteur, prononça celui qui se présentait à l'improviste. Daignez excuser votre très humble serviteur d'avoir eu l'audace extrême d'entrer sans se faire annoncer, sans frapper. Mais tout le monde ici connaît Picard. Il a suffi à l'homme de confiance de Monseigneur le lieutenant de police d'annoncer qu'il était attendu par Monsieur le docteur Hébert pour qu'on lui laissât le passage libre jusqu'ici. Il faut me pardonner ce mensonge, c'en est un de plus que j'aurais sur la conscience. Mais je ne tenais plus en place depuis que je savais la grande nouvelle. Et je voulais venir vous remercier aussi, Monsieur le docteur, car c'est bien, c'est beau, c'est sublime ce que vous avez fait. » Et moitié riant, moitié pleurant de bonheur, ému et tout transporté de reconnaissance, le vieux serviteur saisit les mains de M. Hébert et, avant que le médecin ait pu s'y opposer, y appuya ses lèvres en balbutiant. « Nous vous serons éternellement reconnaissants, notre bienfaiteur. Vous avez notre parole de gentilhomme. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous. » Puis, se levant, Picard s'avança vers les deux jeunes gens en s'écriant. « Nous avons obtenu un régiment. On l'a promis à mon maître. L'autre. » Celui qui aurait eu le droit de me faire pendre haut et court s'il n'était le meilleur, le plus généreux, le plus magnanime des maîtres. Nous l'avons, ce beau régiment. On nous verra l'entraîner au combat. Vous serez à la tête, monsieur le chevalier, et moi, je porterai mon fusil, tout comme un autre. C'est que nous avons encore du sang dans les veines, nous. Et ce ne sera pas un spectacle ordinaire de voir des gentilshommes de vieille souche, des fils d'anciens preux, des rejetons de la vieille noblesse de France, tirer l'épée pour l'indépendance et la liberté d'un peuple. Nous l'émanciperons, ce peuple. Nous l'arracherons à ceux qui veulent le maintenir sous le joug. Ce sera beau, cela. On en parlera dans la vieille Europe. Nos noms seront consignés dans l'histoire. Et plein d'un enthousiasme comique, Picard prit une pause martiale en criant « En avant pour l'indépendance et vive la liberté !» Puis changeant de ton et s'adressant à la jeune fille « Nous allons nous séparer de vous, mademoiselle, mais c'est pour vous conquérir. Notre cœur se brise, notre âme est bien chagrine, mais nous savons que nous vous quittons pour mieux nous rapprocher de vous, que c'est notre devoir, notre mission sacrée. Aussi, voyez-vous, mademoiselle, nous vous cachons la douleur que nous éprouvons. Nous dissimulons notre désespoir, nous dévorons nos larmes. » Et tout en parlant ainsi, le vieux Picard tirait son mouchoir, épongeait de vraies larmes qui sillonnaient ses joues et se mouchait à s'arracher le nez. Le chevalier de Vaudrey interrompit le discours du bonhomme. « Voyons, Picard, dit-il, que signifie votre présence ici? Qui vous a envoyé? Monsieur le comte vous a-t-il chargé de... Ah, mon jeune maître, mon cher maître, monsieur le comte, j'oubliais de vous le dire, m'a accablé de reproches, m'a foudroyé de sa juste colère, et il m'a pardonné. » Le docteur ne put s'empêcher de sourire en demandant. « Il vous a fait sans doute promettre... »« Oui, monsieur Hébert, il m'a fait promettre de racheter mes fautes par ma conduite à venir, par l'observation stricte de mes devoirs de bon serviteur, par ma fidélité. » « Et vous avez promis tout cela ?»« J'ai promis tout, tout. Que n'aurais-je pas promis à ce bon maître qui voulait bien oublier que j'avais osé m'attaquer à la Bastille ?»« La Bastille de Sa Majesté le roi de France ?»« Ah oui, j'ai promis qu'à l'avenir je ne bougerai pas, jamais, jamais. Mais ce que je n'ai pas juré, c'est que j'abandonnerai mon jeune maître, c'est que je le laisserai partir tout seul pour l'Amérique. Et me voici, j'ai acheté un fusil, je suis armé. Nous pouvons partir dès demain. » Puisque monsieur le marquis de Lafayette est prêt. Demain, murmura Henriette en levant les yeux au ciel. Picard avait surpris le mouvement. Nous vous écrirons, mademoiselle, fit-il. Nous vous donnerons des nouvelles de l'indépendance américaine. Nous vous dirons que toutes nos pensées sont pour vous et que nous avons battu les Anglais. Assez, Picard, commanda le chevalier. Mais le brave serviteur ne put s'empêcher d'ajouter à demi-voix. Ah, c'est beau! C'est beau l'indépendance et la liberté d'aimer surtout, quand on a rencontré sur cette terre l'ange qui doit faire votre bonheur. Henriette n'écoutait plus. Son regard disait le courage qu'elle mettait à dissimuler sa tristesse, à cacher son émotion. « Vous partirez demain, Roger ? » demanda-t-elle. « Oui, mon enfant, interrompit le docteur, mais c'est aujourd'hui que le chevalier doit prendre congé de vous, et lorsqu'il aura franchi cette porte, il ne se représentera plus ici que pour devenir votre époux. » L'excellent homme voulait donner à comprendre aux deux jeunes gens que le moment de la séparation était arrivé. Henriette s'inclina devant ce désir qu'on exprimait avec tant de ménagement pour sa sensibilité. Mais elle avait trop compté sur son courage et sa résignation. Au moment de se retirer, elle se sentit saisie au cœur par une impression douloureuse. Et comme elle s'éloignait en chancelant, le docteur la retint par ces mots qui témoignait d'une sollicitude paternelle. « Du courage, mon enfant. Vous savez que nous avons tous deux, nous aussi, une mission à remplir. Il s'agit de combattre un terrible ennemi qui pourra nous imposer une vigoureuse résistance. » « Chère Louise, murmura la jeune fille rappelée à la triste réalité, après tant de rêves de bonheur qu'elle venait de faire. « Oui, reprit monsieur Hébert, chère Louise, chère aveugle, à qui, avec l'aide de Dieu, j'espère pouvoir rendre la lumière. » Ce sera pour nous, mon enfant, une campagne semée de difficultés que celle que nous allons entreprendre. Que pourrais-je, moi ? Soupira Henriette. Vous êtes l'auxiliaire sur qui je compte pour faire prendre patience à notre pauvre aveugle, pour lui rendre les bons soins, les consolations qu'elle trouvait autrefois auprès de la compagne de son enfance, de cette amie plus attentionnée, plus dévouée que la meilleure des sœurs. Mais me sera-t-il permis, voudra-t-on ? On voudra que l'opération que je vais préparer réussisse. Alors, il n'est pas de concession qu'on ne fasse lorsque je dirai ce que j'hésire. » Le chevalier remercia M. Hébert d'un regard. Il avait compris que le docteur voulait lui donner l'assurance que pendant son absence, il continuerait l'œuvre qu'il avait entreprise et qu'il amènerait peu à peu le comte de Lignière à recevoir Henriette comme une personne qui a sa place marquée à l'avance dans la noble famille. Le médecin continua s'adressant à la jeune fille. Et ce que je désirerais, mon enfant, ce sera de réunir le plus souvent possible les deux amies que de cruelles infortunes ont tenues trop longtemps éloignées l'une de l'autre. Je prouverai, si, ce que je ne puis croire, on opposait quelque résistance à mon désir, que c'est une des conditions de succès pour l'opération si délicate que je vais entreprendre. Puis se tournant vers Roger. Vous pouvez donc partir, mon ami, avec l'âme moins troublée, sachant que les deux orphelines auront ici un protecteur en votre absence. Oh, un père, un vrai père! S'écria Picard en levant les bras au ciel. Un de ces bons pères comme serait monsieur le comte de Lignières s'il avait eu des enfants. Malheureusement, il n'a pu être qu'un oncle. Et ce n'est pas la même chose, à ce qu'il paraît. Tandis que le vieux serviteur de la famille de Lignières se livrait à cette manifestation enthousiaste, le chevalier s'était rapproché d'Henriette. C'était le moment attendu par le docteur pour donner aux deux fiancés une dernière preuve de la bonté, de la sollicitude dont il les avait entourés depuis qu'ils connaissaient leur amour et leur malheur. Mes enfants, dit-il en unissant les mains des deux jeunes gens, j'aime à reconnaître tous les bons sentiments qui vous animent. Je suis fier d'être intervenu dans une affaire où je rencontre chez vous deux, d'une part, l'affection et le respect, de l'autre, la sympathie et la pudeur. Vous vous aimez, mes chers enfants, poursuivit le docteur, dont la voix avait maintenant des intonations émues. Vous vous aimez saintement, purement, et ma conscience se trouve à l'aise. Elle m'eût reproché d'avoir donné asile à une personne qui n'eût pas comme vous, Henriette, su faire respecter la chasteté de son cœur. Et cela lorsque ce cœur débordait d'amour. Et comme la jeune fille dissimulait mal un mouvement de surprise et d'embarras. Oui, mon enfant, continua monsieur Hébert, ce que la pudeur vous défendait d'avouer, je puis aujourd'hui le proclamer devant le gentilhomme qui a su faire naître un pareil sentiment et mériter un pareil amour. Et au moment où il va vous quitter, certainement pour de longs mois, j'ai, dans son embarras à formuler des adieux, dans sa réserve, dans ce respect qui se manifeste en lui, j'ai la preuve qu'il vous aimait éperdument, mais qu'il ne se permettrait pas d'implorer une faveur qui le rendrait cependant très heureux, Henriette. Eh bien, cette faveur qu'un père autoriserait, je vous permets de la lui accorder, mon enfant. Monsieur le chevalier de Vaudrey, ajouta-t-il, je vous donne la permission d'embrasser votre fiancée. Roger saisit alors la main que lui tendait la jeune fille, et s'inclinant, il effleura de ses mains frémissantes le front d'Henriette. Ah, voilà qui est bien, très bien. Ça s'appelait de mon temps le baiser des fiançailles, s'écria Picard qui continuait de se moucher avec fureur. Maintenant nous pouvons partir. Le vieux bonhomme, très ému, se dirigeait déjà vers la porte. Mais sur un signe du chevalier, il s'arrêta. C'est qu'Henriette avait murmuré quelques mots à l'oreille de Roger. Elle s'approcha de Picard et le regardant avec une ineffable expression de douceur. À vous aussi, dit-elle, je garde en mon cœur une profonde reconnaissance. À vous qui avez su comprendre dès le premier jour que je n'étais pas la coupable que l'on croyait. Vous m'avez protégé, vous aussi, monsieur Picard. Vous m'avez consolé alors que j'étais plongé dans le plus profond désespoir. Vous vous êtes exposé à des sévérités pour moi que vous vouliez sauver quand même. Oh, je serais la plus ingrate des créatures si je ne vous disais, devant monsieur le docteur et monsieur le chevalier, que je vous remercie du fond de l'âme et que je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour moi. Picard n'y tenait plus. Il allait fléchir les genoux. Henriette lui tendit les deux mains pour le relever. Et dans ce mouvement qu'elle fit, elle s'arrangea pour que ses doigts se trouvassent à la portée des lèvres du vieux serviteur. L'émotion gagnait maintenant tous les personnages de cette scène. Le docteur ouvrit la porte pour livrer passage au chevalier qui adressa un dernier regard à Henriette. Picard fermait la marche. Lorsque la porte se fut refermée derrière celui qui s'expatriait par amour pour elle, Henriette se laissa tomber dans un fauteuil en fondant en larmes.